France Inter.
À vous qui m'écoutez en podcast, l'apéro, aujourd'hui, ça se passe avec Manon Fleury, oui, la chef étoilée du restaurant Datil, dont elle est propriétaire à Paris, dans le Marais, et elle fait passer des messages politiques à travers l'assiette. Alors je pense que vous êtes fait pour la rencontrer, du moins pour l'écouter. Bonjour Manon Fleury.
Bonjour Charline, je suis en retard.
Mais non, vous êtes même 3 minutes à l'avance.
Mais tout va bien
alors. Bienvenue dans mon bistrot.
Je suis trop contente d'être là.
C'est quoi être en retard pour une chef?
Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça veut dire que c'est pas bien son travail.
C'est comme à la radio.
Oui, exactement. Mais on est toujours en retard finalement. Jamais vraiment assez bien son travail.
Allez, venez dans mon bistrot, on va s'installer.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Manon Fleury, vous êtes donc off le samedi soir? Parce que là, il est 19h15.
Oui, oui.
Comment ça se fait?
Le restaurant est fermé le samedi soir, donc j'ai mes soirées le samedi soir.
Ah, comme ça? Mais vous devez être la seule, non?
Je ne suis pas la seule. Il y a pas mal de restaurants à Paris qui sont fermés le samedi soir. On a cette chance-là, en vivant à Paris, il y a quand même beaucoup de contraintes. Donc il faut bien des avantages à vivre à Paris, à ouvrir un restaurant à Paris.
Et pourquoi alors vous offrez le samedi?
Eh ben, j'offre le samedi à mes équipes pour le confort de la vie et l'équilibre avec la vie privée. Voilà, et puis aussi pour moi.
Chef étoilé et propriétaire du restaurant Datil à Paris, qui est situé dans le Marais. Donc finalement, quand certains hommes disent la place des femmes est en cuisine, ils ont raison dans le fond.
Chez Datil, oui, tout à fait. Elles sont là, elles sont majorité.
C'est vrai que vous travaillez avec beaucoup de femmes.
Oui, ouais, il y a beaucoup de femmes dans l'équipe. Après, c'est évidemment, on ne ferme pas la porte aux hommes. Et il y a aussi des hommes qui sont très épanouis dans notre équipe. Mais il y a effectivement une majorité de femmes, avec des femmes à des postes à responsabilité. Et donc, ce qui montre que c'est possible dans notre métier, là où pendant des années, on nous a dit que ce n'était pas possible, qu'on ne recevait pas de CV. Et donc, c'était pour ça que les femmes n'étaient pas dans les restaurants. Et donc, aujourd'hui, voilà, on montre que c'est possible avec Datil.
En réalité, la cuisine, ce n'est pas genré.
Évidemment, c'est pas genré. Et après, il y a eu des clichés qui avaient la dent dure, comme quoi les femmes n'étaient pas très attirées justement par un certain type de cuisine, c'est-à-dire une cuisine professionnelle et notamment en plus de ça gastronomique, ce qu'on fait chez Datil. On disait, voilà, les femmes, elles préfèrent faire en gros la popote ou de la cuisine généreuse du quotidien plutôt que avoir de l'ambition, vouloir avoir une étoile comme on l'a chez Datil, voilà, faire une cuisine un peu d'excellence. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on montre qu'il y a des femmes de la jeune génération qui ont envie de faire ce métier, qui ont de l'ambition, qui ont envie de juste d'avoir en fait une carrière et montrer qu'à un moment donné, elles ne se posent même pas la question de savoir si elles vont devoir faire les choix avec leur vie privée, parce qu'effectivement, on a un métier avec des contraintes, avec des horaires où on travaille le soir, on travaille à des horaires décalés, mais c'est possible aussi de faire des aménagements, comme fermer son restaurant le week-end.
On rappelle qu'il y a à peu près 10% de femmes chefs dans la gastronomie française.
Oui.
Quand même très très peu. Hein.
C'est très peu, oui. Ouais.
Alors Manon Fleury, il y a une bande dessinée qui vient de paraître chez Delcourt qui s'intitule L'enfance des chefs par Marilyn Letertre et Francky Alarcon, avec l'enfance d'une douzaine de chefs qui est racontée, dont la vôtre, Manon Fleury. Et on y découvre que l'odeur de votre enfance, c'est une vieille couverture à l'arrière d'une deux chevaux.
Alors, c'était pas une deux chevaux.
Ah bon? Attendez, je vais ouvrir la BD.
Ah ouais, mais c'était pas... Ouais, c'est revisité. C'était pas une deux chevaux. Et donc, on montait à l'arrière de cette voiture avec mon grand-père et ma grand-mère. Et on allait au verger de mes grands-parents. Et effectivement, cette couverture avait une odeur de, à la fois... fruits mûrs et en même temps de vieux greniers, mais en même temps hyper rassurante. Et je la sens encore, quoi.
Ah oui.
Et pourtant, mes grands-parents ne sont plus là. Donc, effectivement, je peux encore la sentir.
Datil, c'est d'ailleurs le nom d'une ancienne variété de prunes, c'est ça?
C'est une ancienne variété de prunes qui a failli disparaître, qui vient du Lot-et-Garonne. Alors, je ne viens pas du tout du Lot-et-Garonne, je viens de Franche-Comté. En revanche, j'ai fait une étude quelques années avant l'ouverture de Datil sur le séchage de prunes, un truc hyper niche. Mais j'avais rencontré cette prune en allant dans le Lot-et-Garonne voir un maraîcher avec qui je travaille aujourd'hui chez Datil. Et au moment de trouver un nom pour le restaurant, j'ai repensé à cette petite prune Datil qui représente toutes les variétés avec lesquelles on travaille chez Datil, la diversité du végétal, parce qu'on travaille beaucoup avec le végétal, à 80% dans le menu qu'on propose. Et donc, c'est assez symbolique, finalement.
Oui, oui. Les légumes, justement, qu'on considère comme un accompagnement et que vous placez au centre de l'assiette, Donc ça veut dire que le poisson et la viande, c'est ça qui devient l'accompagnement chez vous ? Comment
ça
marche ?
Tout à fait. Ils viennent des, ce que j'appelle des satellites. Alors après, c'est des noms un peu pompeux de chef, mais c'est plutôt ce qu'on dit des condiments, là où les légumes sont souvent placés sur le côté. En fait, la cuisine française, elle a un peu une historique de cuisine bourgeoise. Elle s'est construite sur de la cuisine bourgeoise avec outre-nez, la viande et le poisson au milieu de l'assiette, etc. Et nous, ce qu'on essaie de faire chez Dattil, c'est de décentrer la place de la protéine animale dans l'assiette en la mettant plutôt sur le côté. C'est un peu un petit clin d'œil, c'est un amusement. Et en même temps, de ce fait, ça laisse la place au végétal au centre de l'assiette et ça nous permet de créer. En fait, ça devient une vraie contrainte créative. Et c'est intéressant parce qu'on crée des plats qui se déchargent et qui se décentrent de justement cette construction hyper classique de la cuisine française où on doit passer par la viande, le poisson et puis les légumes sur le côté. Et donc, ça nous permet d'être beaucoup plus créatifs.
Et moins bourgeois.
Et un petit peu moins bourgeois. C'est le cas d'avoir, de donner une nouvelle version du luxe.
Ah oui, ah, très bien, oui, oui. Vraiment, là, vous retournez un principe, parce que vous dites je décentre, mais là, c'est quand même une inversion de tendance. Vous inversez d'autres trucs comme ça, genre la tatin inversée, ça donne une tarte.
Mais peut-être, c'est une bonne idée.
J'ai donné une idée, Manon Fleury, je suis trop fière, j'attends de voir la carte.
France Inter. Bistroscopie. Charline Vanhoenacker.
Elle cuisine des légumes, c'est un truc de meuf. Quelque chose que vous avez entendu ou que vous entendez encore ?
Ah bah ce que j'entends souvent, c'est ce qui me fait sourire, c'est vous faites de la cuisine féminine parce qu'on utilise des légumes et des fleurs, alors que j'ai vu d'autres grands chefs qui m'ont formé qui faisaient à peu près la même chose et qui avaient des cuisines aussi féminines que celles que je fais aujourd'hui. Donc dans ces cas-là, je parle plus de sensibilité, d'un regard particulier, etc. Mais en même temps, parfois, je laisse dire, ça me fait rire.
On va comprendre d'où ça vient aussi, hein. Il y a une explication, mais... Petite question avant, est-ce que vous découvrez encore des nouveaux légumes aujourd'hui ?
Alors des variétés, oui, parce que je pense que tous les maraîchers avec qui on travaille font un vrai travail de recherche et donc d'aller chercher des variétés. Parfois c'est des variétés japonaises, parfois c'est des variétés, ouais, plein de variétés différentes. Donc oui, on découvre encore plein de choses.
Quand vous découvrez, c'est parce que vous avez voyagé ? Ou est-ce qu'il y a encore des légumes à découvrir en France ?
Bah alors c'est soit que je voyage, mais souvent c'est un peu compliqué quand on voyage parce que c'est difficile d'apporter des choses, sachant qu'on essaie de travailler au maximum avec des producteurs français. Mais c'est souvent plutôt des maraîchers qui essaient des choses et qui nous font goûter des nouveaux légumes. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est rare de découvrir un légume, mais souvent dans un même légume, par exemple les tomates, il y a des dizaines de variétés de tomates, donc on peut toujours découvrir des choses, des nouveaux goûts. Je pense plutôt à des fruits, et je dirais que maintenant, je dis souvent grâce au réchauffement climatique, on a des producteurs qui arrivent à développer certaines choses. Par exemple, là, on a un producteur qui fait des agrumes, qui est dans le sud de la France, à côté de Perpignan. Déjà, les agrumes, ça fait que 15-20 ans qu'on a des agrumes en France et qu'on peut avoir se fournir comme ça en direct avec un producteur français. Et là, il est en train de faire pousser des feuilles de bananier. Et je pense que dans pas très longtemps, on pourra faire pousser des bananes dans le sud de la France. Donc, donc on a accès aussi maintenant à du gingembre, etc. Des variétés qu'on ne voyait pas du tout il y a 10 ans. Et donc, c'est aussi se dire que à cause ou grâce au réchauffement climatique.
Oui. En fait, c'est à cause, mais qui devient...
C'est prendre un peu le problème à l'envers. On sait très bien que bah voilà, ça a un impact très fort sur l'agriculture et sur le travail des producteurs avec lesquels on travaille. Et c'est se dire, bah voilà, au lieu d'aller chercher des produits qu'on s'était un peu empêché d'aller chercher loin, on y a accès aujourd'hui avec ce que mettent en place les nouveaux producteurs en s'adaptant justement au réchauffement climatique.
Et quelle découverte vous auriez faite récemment la dernière fois que vous avez trouvé une nouvelle variété de tomates, ou j'ai appris grâce à vous qu'il y avait 12 variétés de brocolis.
Contrairement à ce qu'on croit, on est donc au début de l'automne, on a encore des tomates.
Ça s'arrête quand alors, la saison des tomates ?
Les tomates en France, chez nos maraîchers, ça s'arrête à peu près fin octobre, début novembre. Donc jusqu'à début novembre, on a des tomates, là où on pense qu'en général, les tomates, ça va de juin à fin juillet, début août. Et en fait, la saison des tomates en France, elle va de août à début novembre. Et donc là, on a une variété de tomates qui s'appelle la tomate blush. C'est une sorte de tomate cerise, mais allongée, qui sont hyper tendres, hyper sucrées, et que j'avais déjà croisées dans des champs, mais que j'avais pas forcément cuisinées. On en cuisine en ce moment, et elles sont délicieuses.
Tout ça, c'est un héritage éducatif, dans le fond. Votre maman, elle cuisine bio et peu de viande depuis plus de 20 ans. Alors, je me suis demandé, donc vous héritez de tout ça, mais alors elle, qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu ce déclic-là bien avant la moyenne des gens ?
Mais c'est assez étonnant parce que je ne sais pas vraiment d'où ça lui vient. Je pense qu'elle avait une maman qui cuisinait déjà et qui s'intéressait à pas mal de choses, mais je pense qu'elle avait une curiosité naturelle, un engagement, je pense, assez politique aussi depuis longtemps, et donc écolo, etc. Et donc je pense qu'elle s'est tournée vers ces questions-là assez naturellement, mais je pense en étudiant la question de manière assez détaillée, en fait, en mangeant bio, en s'intéressant déjà à des recettes auxquelles je m'intéresse maintenant, il y a plus de 20 ans. Donc en fait, elle mettait des trucs dans le frigo qui ressemblaient pas aux autres mamans, comme des algues ou des trucs comme ça, trucs un peu bizarres. Et je trouvais ça presque comme tous les enfants, où on a envie de ressembler aux autres. Je trouvais ça un peu bizarre qu'elle veuille nous faire manger du Nutella bio.
Oui, c'est-à-dire que quand vous étiez gamine, vos copains et vos copines disaient ah, ben, Manon Fleury, en fait, elle mange des graines et des légumes.
Ouais,
quoi.
Voilà. C'était un peu bizarre, en fait. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est sens commun, mais je saurais pas expliquer d'où ça lui venait.
Ok, donc éducation plutôt écolo. Mais alors, les légumes, Manon Fleury, c'est avec du glyphosate. Le cadmium, on en trouve dans les pâtes et le chocolat. Il y a de l'essence dans les huiles végétales. Et le tout arrosé d'un peu de Perrier. Est-ce qu'il y a moyen de manger sans s'empoisonner aujourd'hui, vous pensez ?
Je pense que c'est très difficile. Et je pense que c'est une vraie question. Comme tout, je pense qu'il faut faire au mieux et avec les moyens qu'on a. Et essayer de faire le plus brut possible. Ce que je dis, c'est que essayer d'aller vers des produits les moins transformés possibles. Voilà, même si moi je prône le fait de manger quand même bio, même si le chocolat bio, visiblement, c'est compliqué. Je pense que quand je vois la manière dont travaillent justement les maraîchers avec lesquels je travaille, le fait qu'ils se donnent autant de mal pour justement pas abîmer la terre, respecter le vivant, etc., je me dis quand même qu'il y a des sources d'optimisme. Donc je sais aussi que je parle avec un discours de chef assez élitiste et que je fais attention aussi à tout ça en n'étant pas aussi donneuse de leçons, parce que je sais que c'est aussi pas donné à tout le monde de pouvoir bien s'alimenter. Mais ce que je dirais, c'est qu'il faut essayer d'aller vers les choses les plus simples possibles.
Ouais, j'en reviens à cette bande dessinée, L'enfance des chefs, Manon Fleury, dont vous êtes l'un des personnages, donc. Hein. Vous êtes pile entre Christopher Coutenceau, à La Rochelle, qui est tombé dans le poisson quand il était petit, et Pierre Hermé. On comprend qu'ils ont vraiment grandi là-dedans. Et donc, ça tranche avec vous aussi, parce que on comprend, en regardant cette bande dessinée et l'enfance, comment se développe le goût, que vous êtes presque étrangère à la cuisine.
Ouais.
Vous êtes au sport, on va en parler tout à l'heure, à tel point que vos parents vous amènent très très peu au restaurant.
Oui, et puis je venais aussi d'un milieu classe moyenne, on n'allait même pratiquement pas au restaurant. Moi, les seuls endroits où j'allais au restaurant, j'allais à la cafette, ce qu'on appelait la cafette.
C'était quoi chez... cette cafette?
Je vais encore citer Marc, mais genre chez Flunch, quoi. Chez...
Ah ouais. On mangeait quoi au Flunch?
Alors, je me souviens d'un plat, j'en ai jamais parlé, je mangeais du jambon, vous savez, du jambon chaud, du jambon à l'os.
Ah ouais, ok, jambon.
Et de
à
la
l'os
purée,
chaud.
Je crois que c'était mon truc un peu préféré. Mais c'était assez cool pour les enfants quand même, le principe de la cafette, d'aller se servir soi-même, d'avoir le choix. Je me rappelle de me dire waouh, j'ai l'embarras du choix et tout. Donc c'était assez ludique finalement.
Je comprends tout à fait ça, j'ai passé mon enfance là-dedans aussi. Nous c'était boucher à la reine, vol au vent.
Ah ouais. Et vous aimiez ça?
Ouais, j'adorais ça.
Ah ouais.
C'était une grande salle impersonnelle, comme un restaurant d'entreprise, quoi.
Exactement.
C'était au supermarché du coin.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'était supermarché du coin. Ouais. Et moi, ça me paraissait, c'était cool déjà à la sortie à la cafette. Donc, j'ai pas eu du tout cette éducation du restaurant et de tout ce qui va autour. En fait, c'est pas là où j'ai pris le goût de la restauration et de la gastronomie. C'est vraiment après, quand j'ai commencé à faire de la cuisine, que je suis allée au restaurant, parce que j'ai compris que c'était évidemment, ça allait avec le milieu, que c'était hyper intéressant, que c'était tout un monde qui s'ouvrait, mais c'est pas du tout une éducation que j'ai eue de la part de mes parents.
Et c'est là qu'on comprend avec cette bande dessinée que vraiment votre parcours y tranche, surtout quand on lit le parcours des deux autres, c'est clair. Vous avez des parents sportifs, Manon Fleury, vous-même aussi, sport-études, championne de France de sabre à 17 ans. Là, je voudrais savoir, c'est quoi la différence entre le sabre, le fleuret, l'épée, outre, bien sûr, l'arme que vous tenez, est-ce que c'est si différent que ça?
Alors oui, c'est assez différent dans pas mal de choses. Les bases, les gammes de déplacement sont à peu près les mêmes, on va dire. Il y a un socle commun. Et après, il y a les zones valables. Donc, ce qu'on appelle les zones valables, c'est des endroits où il faut toucher. Donc, par exemple, moi, je faisais du sabre. On a le droit de toucher que le haut du corps, donc la tête, les jambes, tout le tronc. En revanche, par exemple, l'épée, on peut toucher tout le corps. On peut toucher les pieds, on peut toucher de la tête aux pieds. Et le fleuret, on peut toucher que la partie, donc le tronc sans les bras.
Ah oui, comme le plastron.
Comme le plastron. Et puis après, il y a tout ce qui est rapidité, en fait. il y a des vraies différences sur les temps, ce qu'on appelle les temps d'escrime. En fait, l'épée, par exemple, c'est beaucoup plus lent. Donc, il y a des timings sur les touches qu'il faut mettre. Alors que, par exemple, le sabre, moi, je faisais une arme qui était très rapide. C'était en 15 touches et il n'y avait même pas de timing. Donc, voilà, il y a des différences entre les. Mais c'est hyper complexe, comme moi, je regarde le judo et que je me dis, je comprends rien en règle.
Donc, le sabre plus rapide et plus ciblé.
Oui.
Donc, on va dire hyper pratique, genre pour la julienne de légumes, plus que pour trancher le serrano.
Exactement, mais en même temps, le sabre, c'était la particularité de cette arme, c'était qu'on pouvait toucher à la fois avec la pointe et avec le tranchant de la lame.
Ah waouh, ok.
Donc voilà, il y avait un côté un peu fouetté aussi, voilà, qui...
Toutes les analogies, on les a en tête. Oui. Faites-les chez vous, les analogies, sabre, cuisine, toutes les blagues, allez-y. Il y en a... Maintenant, Florie, elle n'en peut plus des blagues à ce sujet, elle n'en peut vraiment plus. Mais le rapport à l'effort, au jeu, à la compétition, quand même, il y a des valeurs communes, des choses communes entre sport et la cuisine. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée d'un cas pratique?
Ben, je pense qu'il y a vraiment ce que j'avais ressenti quand j'ai commencé la cuisine, c'est vraiment l'adrénaline qu'on a pendant les services. Ça ressemble vraiment à l'adrénaline qu'on a dans le sport. Un effort continu pendant une compétition, pendant un match. Et le service, c'est comme ça, ça monte crescendo. On a le début du service où en général c'est un peu calme, il faut qu'on soit prêt. Donc c'est pareil que pendant un match où il faut être prêt à affronter son adversaire, ben là, pendant le service, on est prêt à affronter le service, à servir les assiettes, etc. Donc il y a plein de préparations en amont du service. Et au début du service, il y a plein de rituels. Comme un sportif a plein de rituels avant de commencer un match. Et puis après, quand ça commence, et voilà, il y a une espèce de pic à un moment donné où le stress monte. Et c'est un stress qui est quasi inévitable. Et il y a ce qu'on appelle le coup de feu en cuisine, qui correspond à un effort, à un pic d'effort pour un sportif. Et après, qui redescend à la fin du service. Mais il faut être à un moment donné, à ce moment-là, canalisé sur tous ses sens, à la fois de quand on est chef et quand on est au ce qu'on appelle au pass, donc c'est l'endroit où on donne les commandes pour la cuisine. Il faut être très clair, il faut donner les instructions au reste de l'équipe, etc. Il faut avoir une concentration qui est assez importante. Et en même temps, c'est quand c'est comme on voit dans beaucoup d'émissions aujourd'hui sur la cuisine ou de séries, il y a un moment donné où ça nous demande beaucoup, comme dans le sport. Donc, et ça, c'est à la fois difficile comme un effort sportif, et en même temps, quand ça redescend, il y a une espèce d'adrénaline qu'on a avec les services. Je me rappelle pendant le confinement, où j'avais pas de restaurant et les restaurants étaient fermés, je rêvais la nuit des services parce que j'avais envie de faire des services, comme quand ça a pu m'arriver de rêver de compétition quand je faisais l'escrime. Donc il y a vraiment un truc qui est presque comme une drogue, quoi.
Vous jouez 2 matchs par jour, quoi.
Voilà, un peu.
Un peu ça. Ok. Manon Fleury, vos parents sont fonctionnaires attachés au ministère de l'Économie et des Finances. Alors, de tout ça, vous avez un intérêt pour la politique, l'économie, la sociologie. Vous préparez Hippocagne, c'est ça, le concours pour Sciences Po, l'ENS, dans l'idéal. Oui. Et vous êtes confronté à un mur. Vous n'y parvenez pas. Qu'est-ce qui vous a empêché?
Ah, c'est une question assez intéressante parce que je pense que je me suis retrouvée en Hippocagne dans un lycée parisien assez prestigieux, hein, dans le 7e arrondissement, en venant d'un lycée de province, qui était pourtant un bon lycée de province, où je faisais de l'escrime en sport-études. Et je me suis rendu compte de tout le retard de bagage culturel que j'avais en rentrant dans ce lycée parisien, en fait, avec une sorte de déclassement social, en fait, en me disant, en fait, je suis pas au niveau, qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années? Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'est la différence entre le conditionnement qu'on a quand on est à Paris et qu'on évolue dans des lycées parisiens et le reste de l'éducation en France, ou alors ce que nous apporte parfois la famille. Mais clairement, moi, j'avais pas eu certains codes, et donc je pense que ce qui a fait que j'ai ressenti quelque chose d'assez fort quand j'étais en Hippocagne. Et aussi, je pense, l'inadaptation au fait d'être 10 heures par jour à une table, assise derrière un bureau. Je pense que j'avais pas ce... J'étais pas assez...
Adaptée
à ça. J'étais pas, peut-être pas assez intello.
C'est vous qui dites ça, mais je pense pas. Ensuite, donc, inscription dans des écoles de cuisine, l'apprentissage, le CAP, 3 ans à l'école Ferrandi, qui est très, très, très réputée. Et c'est seulement durant un stage, pendant ces 3 ans à Ferrandi, que vous dites connaître une de vos premières grandes émotions gastronomiques. Oui. C'est raconté dans la bande dessinée L'enfance des chefs. C'est-à-dire...
En fait, j'avais un chef qui était... Donc, j'étais en stage dans un restaurant 2 étoiles qui s'appelle La Marine à Normoutier, mais qui est aujourd'hui maintenant 3 étoiles. Et le chef m'avait gentiment proposé d'aller dîner alors que j'étais en stage. Et c'était... Ma mère était venue me rendre visite à Noirmoutier. C'était un peu le bout du monde pour mon anniversaire. Et donc, il m'avait proposé d'aller dîner avec ma mère. Donc, d'aller goûter...
Trop mignon.
Ouais, trop sympa. Et donc, je vais goûter ce que je préparais, en fait, depuis quelques semaines. Et là, j'ai goûté un plat que je préparais tous les jours, mais que j'avais jamais goûté en entier. Assise aussi, à une table, dans le restaurant, avec tout ce que ça avait d'impressionnant aussi, je pense. Et là, j'ai eu une émotion en me disant, mais en fait, c'était pas du tout ce que j'imaginais en préparant le plat. Et c'était magnifique, ça m'avait presque fait monter les larmes aux yeux parce que c'était délicieux et qu'il y avait une relation au côté charnel, parce que c'était une sorte de langoustine cuisinée avec une vinaigrette à la framboise. Et je me suis rendu compte de ce que pouvait provoquer la cuisine comme émotion.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, je suis attablée au bistrot avec la chef étoilée Manon Fleury, propriétaire du restaurant Datil à Paris, c'est dans le Marais. Vous avez toute une période d'itinérance où vous cuisinez notamment pour des gens, des privés, en Grèce. Il y a aussi un passage dans le restaurant d'un hôtel 5 étoiles à Monaco. Pour moi, c'est une vision de l'enfer. Pour vous, c'était chouette ?
Alors, pour moi, c'était intéressant parce que c'était... un exercice que j'avais jamais fait, en sachant que les restaurants d'hôtel, c'est vraiment un truc particulier parce que il faut à la fois s'adapter aux clients de l'hôtel et pouvoir attirer des clients extérieurs à l'hôtel. Donc il faut avoir un truc un peu, on va dire, cadré, normé, qui s'adapte un peu à tous les palais. Donc j'avais fait une carte qui était en fait quand même beaucoup plus classique que ce que j'aurais fait dans un restaurant où j'étais libre. Et en même temps, en étant capable de cuisiner certains produits auxquels n'étaient pas habitués ce genre de clientèle qui venait manger en oui. Ferrari et à qui on servait des sardines grillées.
Attendez, vous avez fait manger à des oligarques russes et des exilés fiscaux de tous bords et des princes saoudiens des sardines grillées.
Et qui était le plat préféré de la carte parce qu'ils me disaient que ça leur rappelait des sardines grillées sur la plage. Voilà, des choses aussi simples que ça. Donc. Et le restaurant était plein et ça a hyper bien fonctionné. Donc en fait, c'était encore une fois une manière de montrer aussi une vision du luxe différente. Et c'était pas forcément gagné avec effectivement le type de clientèle qu'on trouve à Monaco. Mais c'était un beau challenge.
Ouais. Monaco, ensuite, on voyage avec vous à New York, où vous travaillez pour un chef qui est précurseur des enjeux climatiques en cuisine. Et là, vous découvrez le lien... entre cuisine et politique véritablement, c'est ça ?
Oui, alors ça c'était avant que je devienne chef, donc là j'ai été, c'était quand mon parcours qui m'a formée, et donc effectivement j'ai travaillé avec ce chef qui s'appelle Dan Barber, qui a un restaurant donc, à 30 minutes au nord de New York qui s'appelle Blue Hill at Stone Barns, où on travaille avec, donc, à 70% avec les produits de la ferme, et qui avait une vraie vision politique. Et c'était la première fois que je rencontrais un chef qui avait cette vision-là politique. Alors qu'en France, j'ai quand même eu des chefs qui étaient plutôt des créateurs, mais qui apportaient pas de vision politique à leur cuisine.
Et ça veut dire quoi, apporter une vision politique à la cuisine, alors ?
C'est-à-dire se poser des questions sur l'impact de ce qu'on va servir dans l'assiette, sur les messages qu'on veut transmettre avec une assiette, ce que faisait énormément Dan Barber, ce qui faisait qu'il y avait des assiettes qui étaient carrément conceptuelles, avant d'être presque des assiettes gastronomiques.
Attendez, on peut faire passer un message politique par l'assiette ? Genre, on peut servir une assiette... Donald Trump démission ?
Ah, parce que peut-être aurait pu faire Dan Barber, je pense.
Il est peut-être en train de le faire, là.
Je ne l'ai pas suivi récemment, mais ce serait possible. Par exemple, il faisait un œuf au plat avec des œufs qui avaient un jaune qui était rouge. Parce qu'en amont, il avait des poules dans la ferme qu'il nourrissait avec des piments. Donc, il venait colorer le jaune d'œuf de la poule. Et donc, quand on cassait cet œuf, le jaune restait rouge. Et en fait, il prouvait que quand on était au « you are what you eat ». Et autour de cet œuf, il servait tous les condiments dont se nourrissait la poule. Et donc, c'était un plat qui disait, bah voilà, vous faites attention à ce que vous mangez, parce qu'en fait, ça se retranscrit dans ce que vous êtes.
Ah, wow.
Voilà.
On devient ce qu'on mange.
Voilà, exactement. Très américain. Mais en même temps, qui m'a fait réaliser aussi qu'on pouvait passer des messages assez fort via des plats.
Et de travailler en direct avec les maraîchers, mais de vraiment y aller, de les accompagner, d'en faire partie intégrante, même de votre cuisine, de votre restaurant, c'est presque une sorte d'activisme que vous avez appris là-bas ?
Je pense qu'en fait, en fait, je pourrais pas faire autrement. Donc c'est presque du bon sens et surtout une manière de travailler à laquelle je me suis habituée en travaillant avec des produits de super qualité et en ayant cette relation hyper proche avec l'écosystème des maraîchers qu'on a autour du restaurant, en ayant vraiment une relation directe, c'est-à-dire qu'on échange avec eux par message, ils nous donnent leur disponibilité, les légumes qu'ils ont à la semaine, donc on travaille presque avec une notion de micro-saisonnalité. Et donc ça, c'est hyper intéressant, donc ça rend le travail déjà beaucoup plus intéressant. Et par ailleurs, effectivement, c'est quand même un engagement parce qu'il faut les soutenir, parce que c'est beaucoup plus difficile de travailler comme ça. On se met des contraintes qui sont très très fortes. Soit au lieu de se dire qu'on appelle une plateforme logistique le soir, une fois qu'on a terminé notre service pour être livré le lendemain matin à 7h, il faut s'organiser pour échanger avec 15 producteurs différents qui nous donnent des quantités parfois très, très petites sur des produits.
Vous ne vous facilitez pas la tâche.
On ne se facilite pas la tâche, donc c'est là que c'est effectivement une forme d'activisme. Et en même temps, c'est, pour moi, il n'y aurait pas lieu d'avoir un restaurant si je consommais autrement, en fait.
Et puis, vous agissez aussi parce que vous avez créé l'association bondir.e qui lutte contre les violences en cuisine. Des violences que vous avez plutôt subies, plutôt observées, les deux ?
Plutôt observées.
Plutôt observées, ouais. Vous avez observé, vous dites, une norme. Oh, mais alors ça, lutter contre la norme, bonjour. Enfin, c'est ce que vous faites tous les jours aussi dans l'assiette, mais...
Oui, tout à fait. C'est très difficile. C'est très difficile de repenser à un système qui est en place depuis très longtemps.
Vous le changez par le vocabulaire, notamment, c'est ça ?
Par le vocabulaire. On a mis en place notamment une formation récemment sur justement des outils de communication qui peuvent aider à mieux communiquer au sein d'un restaurant. Ça, c'est une formation qui est disponible auprès des entreprises.
Elle vous appelle comment, votre équipe ?
Elle m'appelle Manon.
Jamais chef ?
Non, jamais chef. Jamais chef, et ça fonctionne très bien
si
comme ça.
Si quelqu'un vous appelle chef, bim une tarte.
C'est ça, exactement. Donc voilà, on arrive à, je pense, à une toute petite échelle pour l'instant, à faire bouger un peu les lignes, et ça évolue très lentement. Mais en même temps, j'ai l'impression que Bondir est un peu un phare qui dit à la jeune génération, on a envie de faire les choses différemment, et vous pouvez faire les choses différemment en utilisant des outils de communication différents, en mettant en place du management, ce qui finalement n'est pas un truc improbable.
Il y a un happiness manager chez vous ou pas ?
Alors, il n'y a pas de happiness manager, mais on travaille effectivement beaucoup à travailler dans la bonne humeur.
Même le coup de feu, c'est violent en fait.
C'est totalement violent. C'est totalement violent et il y a beaucoup de vocabulaire dans le milieu de la restauration qui est encore violent, donc il y a quand même pas mal de choses à déconstruire aussi de ce point de vue-là.
Mais le coup de feu, on ne sait pas le remplacer par autre chose, là. Vous l'avez gardé, ça, pour l'instant.
Bah, on l'a gardé, ouais, il y a le moment, ouais, je sais pas, on pourrait l'appeler le point culminant.
Oui, voilà. Le point d'orgue. Manon Fleury, vous avez aussi lancé une sorte de, je dirais, Erasmus des chefs. D'échange entre chefs. Il y a déjà eu une expérience avec les Pouilles, avec Biarritz. Ça s'appelle Dedans, Dehors. Quel est le concept ? Pourquoi est-ce que c'est chouette de s'échanger les restaurants, presque ?
Alors oui, le concept, c'est d'échanger entre restaurants, entre chefs de restaurants, entre cuisiniers et cuisinières de restaurants, et d'aller voir ailleurs, en fait. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand on reste dans le même restaurant au quotidien, on s'endort presque dans une petite routine. Et en fait, le fait d'aller voir ailleurs ce qui se passe, de se nourrir des autres, ce que faisaient pas du tout les chefs de la génération avant moi. Pour avoir échangé il y a quelques mois avec Pierre Gagnère, qui est d'une autre génération, il me disait, mais nous, on n'aurait jamais fait ça, en fait. Ça se faisait pas du tout d'aller faire des échanges entre chefs. C'était chacun avait son précaré et défendait son précaré avec ses fournisseurs, etc. Aujourd'hui, on échange tous nos fournisseurs, on échange nos petits tips, on échange nos recettes.
Mais est-ce qu'il arrive aussi que dans votre art, comme dans tous les arts, il y ait du plagiat ?
Ah, mais c'est que du plagiat !
Ah, c'est un moteur, le plagiat.
Je regarde énormément ce que font les autres restaurants. Je vais manger énormément dans les autres restaurants, ce que font aussi mes équipes. Et je pense qu'il faut se nourrir de ce que font les autres. Et évidemment, il n'y a pas de création ex nihilo. Et on s'inspire tous les uns des autres.
À votre niveau, rater un plat, ça commence où ?
Ah, c'est hyper intéressant.
Vous n'êtes pas venu là pour beurrer les sandwichs, hein ?
Yeah. Souvent, ça démarre mal. Souvent, un plat raté, c'est qu'on a du mal à le mettre... c'est qu'on a du mal à le définir au départ et on a du mal à poser les fondations. Donc, ça arrive...
On sent très vite que ça va rater.
On sent très vite que ça va rater ou parfois, on a un plat qu'on met au menu, on a beau travailler dessus, on se rend compte que ce ne sera pas le plat de l'année, quoi. Et personne ne le saura, c'est pas grave, il n'y a que nous qui le savons. Mais...
Ah, maintenant, la France entière le sait.
Mais pourtant, on se dira, bon, celui-là...
Je vais vous soumettre un cas pratique. Vous avez 30 convives ou clients. Vous avez commandé un poisson de 12 kilos. Le poisson arrive, il ne fait que 8 kilos. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, soit on choisit de servir des plus petits morceaux de poisson aux clients, ce qu'on peut faire, parce qu'on est libre. On a un menu dégustation, on est libre, on fait ce qu'on veut.
À la bonté, la liberté.
Bravo. Soit on décide de ne pas servir de poisson aujourd'hui au client, on attend le deuxième poisson qui arrivera demain matin.
Ah, ok. Maman Fleury, elle est pour la liberté de cuisson. Est-ce que la ministre de la Culture, elle est déjà venue manger chez Datil ?
Non.
Combien de fois vous fait la blague ? Depuis qu'elle est nommée.
Datil dit qu'on l'attendait.
Elle est prête, Manon Fleury, elle est prête à tout. Elle s'est préparée avant de venir. Elle est chef, elle est championne de sabre, elle savait que ça allait tomber à un moment. Manon Fleury, il est presque déjà l'heure de se quitter. J'aurais parlé des heures avec vous encore. Mais je voudrais savoir, là on est entre nous, est-ce que vous pouvez me le dire, est-ce que les Belges font des meilleures frites que les Français ?
Alors, je suis bien placée pour vous le dire, parce que notre sous-chef est belge. Et elle fait les meilleures frites du monde. Elle s'en va dans pas très longtemps. Et elle va vraiment nous manquer pour ça.
Il faut vraiment aller vite venir chez Datil.
Au repas du personnel, surtout.
Oui, d'accord.
Elle fait vraiment ça comme si elle avait ça dans le sang. Ah. Ça m'impressionne toujours. Oui, les Belges font des meilleures frites que les Français.
Merci beaucoup, Manon.
Merci, Charline.
Datil se trouve à Paris, bien sûr. Et vous pouvez aussi découvrir l'enfance et les goûts de Manon Fleury dans L'enfance des chefs avec bien d'autres chefs. C'est une bande dessinée parue chez Delcourt.
Merci beaucoup.
Ainsi s'achève Bistroscopie et sachez que vous pouvez aussi retrouver Manon Fleury en chronique régulièrement chez l'ami François-Régis Gaudry dans l'émission On va déguster. Et pour Bistroscopie, je tiens à remercier Ophélie Vivier, chargée de programme, François Audouin à la réalisation, Christophe Papon à la prise de son et Raphaël Rousseau au mixage, ainsi que Corinne Chauvel à la documentation. Je vous retrouve samedi prochain à 19h20.